Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse. Trois sujets sont à la une de cette émission. Des échauffourées ont eu lieu cette nuit à Luodi au Bas-Congo entre les adeptes du mouvement politico-religieux Bundia Congo et la police nationale congolaise. Des éléments de la police nationale qui sont arrivés jeudi à Luodi pour rétablir l'autorité de l'État dans cette contrée. C'est après que le mouvement politico-religieux Bundia Congo ait brûlé vive à Kinkenge et à Bételemi, toujours au Bas-Congo, trois personnes accusées de sorcellerie. Notre second thème, c'est l'an 1 du gouvernement Dizenga. Enfin, dans notre troisième thème, nous parlerons de la table ronde sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC qui s'est tenue cette semaine à Kinshasa. Nous avons invité une consoeur et trois confrères pour en parler. Sonia Lukuta Mugalu de Digital Congo Télévision, Mike Mukeba Nkoso, directeur de production du journal Le Sort, paraissant à Kinshasa, et Kalala Chimankinda, éditeur du journal Tendance, paraissant aussi à Kinshasa. Enfin, Taylor Toeka, correspondant du journal Le Pas à Goma en Nord-Kivu, il intervient en téléphone depuis cette ville. Des incidents sont survenus cette nuit dans la cité de Luozi au Bas-Congo, située à environ 235 km de la ville de Matadi, entre des éléments de la police nationale et les adeptes du mouvement politico-religieux Bundia Congo. Le bilan fait état de 5 blessés graves, tous des civils, selon des sources hospitalières qui affirment avoir interné ces blessés à l'hôpital général de référence de Luozi au Bas-Congo. Selon l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, l'arrivée des éléments de la police venus restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province a effrayé les adeptes de Bundia Congo. Pour rappel, les adeptes de Bundia Congo ont brûlé vives cette semaine trois personnes accusées de sorcellerie. C'était précisément dans le secteur de Kinkenge et à Bételemi, situé à 20 km de la cité de Luozi. Les autorités provinciales de l'Église du Christ au Congo et CC dénoncent la passivité du pouvoir face aux graves atteintes aux droits de l'homme perpétrés par les adeptes de Bundia Congo. Dans un mémo adressé aux autorités parvenues à la rédaction de Radio Okapi, l'Église du Christ au Congo regrette le silence du pouvoir en place face aux actes d'intolérance posés par les adeptes de Bundia Congo au Bas-Congo. Dans ces mémorandums, l'Église protestante dit ne pas comprendre pourquoi les autorités étatiques laissent impunies toutes les bévues que commettent les Makessa ou adeptes de ce mouvement politico-religieux sur le patrimoine de l'ECT, sur son personnel et sur d'autres citoyens de la province. L'essentiel de ces mémos de l'Église du Christ au Congo avec notre confrère Innocent Olinga.
Un à un, les responsables de l'Église protestante énumèrent dans ses mémos tous les actes d'intolérance posés par les BDK entre juin 2007 et février 2008 à l'endroit de l'Église du Christ au Congo dans la province du Bas-Congo. Menaces, enlèvements, tortures des pasteurs et prêtres, préfets, directeurs d'écoles et enseignants, destruction des infrastructures de l'Église, et dans tout cela, les auteurs poussés par la xénophobie, soulignent les mémos, ne sont pas inquiétés. L'Église du Christ au Congo indique par ailleurs que ces actes sont commis dans deux districts, les bas-fleuves ainsi que les districts des cataractes. Non seulement, ajoute l'Église protestante, ces actes touchent les fidèles, les protestants et les bergers, mais aussi d'autres chrétiens, comme le cas d'un prêtre catholique menacé et chassé de sa paroisse le 24 dernier dans la localité de Mbandakani. L'ECC demande que soit vite instaurée l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province et que les élèves et les enseignants, les pasteurs et les prêtres partout travaillent en toute quiétude. Sinon, écrivent les responsables de l'ECC dans leur mémo, le silence du pouvoir favorise les malfaiteurs impunis de toujours récidiver.
En réaction à ce mémorandum, une équipe d'urgence a été déployée depuis mercredi dans la cité de Luozi dans le Bas-Congo, avec comme objectif rétablir l'ordre public et l'autorité de l'État. C'est le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Denis Kalumenumbi, qui a annoncé la décision ce jeudi. Celle-ci a été prise au cours d'une réunion des responsables de la sécurité tenue à Kinshasa. Évoquant ces atteintes aux droits de l'homme, Denis Kalumé est revenu sur le cas de deux personnes jugées brûlées et enterrées vivantes. Il a également signalé d'autres cas de torture infligées au Nekongo. Le ministre d'État en charge de l'Intérieur répond aux questions de notre consoeur Mimi Ngumba Mulongo.
Qu'il fallait que nous puissions rapidement prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation. Et nous avons décidé primo, rapidement, de pouvoir prendre des dispositions pour envoyer sur place les hommes avec le gouverneur de province, les ministres provinciaux de l'Intérieur, les responsables de la justice, tant militaire que civile, pour arrêter les responsables de ce massacre, le mettre à la disposition de justice pour qu'il soit jugé et remettre en place le responsable des services de l'État qui ont été déstabilisés. Et deuxième chose, il fallait qu'on prenne des dispositions pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire. Partout, l'autorité de l'État a été déstabilisée. Il faudra qu'on puisse rapidement rétablir cette autorité-là. Ça fait partie des missions constitutionnelles. Les dispositions ont été prises dans ce sens. Pour le moment, la situation est sous contrôle et tout évolue bien.
Sonia Lukusamugalo, vous êtes journaliste Digital Congo Télévision. Votre réaction par rapport quand même à cette situation qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui commence de plus en plus à dégénérer?
Je suis désolée. Je suis vraiment désolée que cette situation arrive encore. Quand je dis encore, c'est-à-dire que, vous-même vous l'avez dit, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé. Je regrette que le ministre de l'Intérieur m'excuse, je regrette que le ministre de l'Intérieur fasse venir le leader de cette secte BDK chez lui au ministère pour le remettre la constitution. Il y a un exemple de comment on appelle ça encore, de l'affaire des partis politiques, je m'excuse. C'est comme ça qu'il compte régler cette situation. Entre-temps, les gens meurent. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faudrait rétablir l'autorité de l'État au Bas-Congo.
Et c'est de quelle manière?
Moi, je pense qu'il faut... Il y a la justice, mon Dieu. Qu'est-ce qui pour amener monsieur debout du Congo devant la justice?
Mais c'est un député national.
C'est un député national, bien entendu. Oui, bien entendu, une immunité. Et puis après, qui continue à tuer? Qui continue à tuer nos frères?
Mais lui, il est nié. Il nie, il dit que c'est pas son mouvement.
C'est pas son mouvement, et c'est qui? Parce que la population témoigne. Il y a des preuves, n'est-ce pas? Pourquoi on ne fournit pas ces preuves-là? Qu'est-ce qui se passe finalement? On n'arrive pas à comprendre, ça revolte la population. On a des membres de famille, on a des amis, on a des Congolais qui vivent au Bas-Congo, qui ne sont plus à l'aise parce qu'il y a une certaine BDK qui fait la loi. Et pourquoi l'autorité de l'État n'est pas rétablie? Qu'est-ce qu'on attend pour rétablir l'autorité de l'État? C'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, que le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, de ce ministre, fasse quand même quelque chose, ça ne va pas.
Merci beaucoup, Sonia Lukusamugalo. Mike Mukebay, vous êtes directeur de production du journal Le Soft, par exemple, ici à Kinshasa. Est-ce que vous pensez, comme Sonia, que le gouvernement n'y fait pas assez pour mettre une fois pour toutes fin à cette situation?
Donc, moi, je pense que, comme le dit Sonia, le gouvernement ne fait pas assez, mais seulement, moi, je vois les choses autrement. Moi, je n'impute pas la responsabilité de ces incidents qui surviennent dans le Bas-Congo au leadership de Bondozi en Congo. Je crois qu'au niveau du gouvernement, on a connu ça dans d'autres pays où il y a eu des mouvements religieux qui ont même amené des centaines de gens à se donner la mort en espérant qu'ils vont se retrouver au ciel. Donc la première...
C'était le cas pour...
Non, j'évolue. J'ai dit la première, pourquoi j'évoque ces cas qu'on a connus ailleurs. C'est la première chose pour le gouvernement, c'est de déterminer d'abord la philosophie du Bundudi en Congo. Est-ce qu'il est inscrit dans la philosophie du Bundudi en Congo qu'il faut aller commettre des violences contre les membres des autres églises? Je ne pense pas que cela soit ainsi inscrit dans la philosophie du Bundudi en Congo. Je crois qu'il y a des responsabilités individuelles des membres du Bundudi en Congo, et quand il s'agit des responsabilités individuelles, c'est au gouvernement de sévir. Et c'est là que j'ai cité les cas d'ailleurs. Il appartient au gouvernement, ça ne concerne pas seulement les Bundudi en Congo, il appartient au gouvernement de suivre tout ce mouvement religieux, parce que ces mouvements religieux mènent toujours de faire des dérapages. Mais je me pose la question si le gouvernement fait ce travail-là. Mais et puis c'est bien beau aujourd'hui de parler des incidents qui sont survenus, des actes de violence perpétrés par les membres du Bundudi en Congo. Mais n'oublions pas qu'il y a eu, certains ont qualifié ça de massacre, il y a eu l'année passée, des tueries qui ont visé les membres du Bundudi en Congo.
Et là, justifie le fait qu'aujourd'hui, ils doivent aussi commettre des actions sur des gens qui ne partagent pas leur opinion religieuse ou contre l'autorité de l'État.
Quand le gouvernement lui-même n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, quand nos institutions ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout pour faire la lumière sur une affaire qui concerne des tueries massives, il est vraiment regrettable que de la main on se dise non, c'est un groupe qui commet des exactions. Parce que ce que je voudrais dire
rapidement,
si on veut faire la justice, si on veut faire la justice, Il faut la faire de manière objective. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on remette sur le tapis l'enquête parlementaire sur les tueries des membres du groupe. Il ne doit pas avoir une justice à deux vitesses. Plus rigide, plus sévère quand il s'agit des membres du Bundu du Congo, plus souple, plus laxiste quand ce sont les membres du Bundu du Congo qui sont victimes.
Excusez-moi, je voudrais réagir
rapidement, Sonia.
Moi, je pense que Mike, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Il y a des faits actuels. Les faits, c'est quoi? Il y a des massacres, il y a des tueries, je ne sais pas si je vais appeler ça massacre. Il y a eu des faits, bien entendu, il y a eu une enquête parlementaire qui a été diligentée. Mais qu'on donne les résultats, mais qui empêche? Il faut qu'on donne les résultats et que tu as parlé de ces liens, il faudrait qu'on s'élise. De part et d'autre, là où il y a des responsabilités, qu'on établisse les responsabilités, qu'on punisse. On ne va pas continuer à vivre dans une république, excusez-moi le terme, bananière, ça choque.
Merci beaucoup, Sonia. Nous avons également en ligne Kalala Chimankinda. Vous êtes éditeur du journal Tendance, paraissant ici à Kinshasa. Vous avez suivi Sonia, Lukusa Mugalu. Vous avez également suivi Mike Mukebai. Votre réaction par rapport à ces événements?
Écoutez, mon cher ami, moi je crois que il faut qu'on arrive à tenir. J'ai vu Mike dire qu'il y a une justice à deux vitesses. Il y a d'un côté les adeptes de Bundu du Congo et de l'autre côté, il n'y a pas d'autres cellules qui vont attaquer les gens de Bundu du Congo. Il y a plutôt l'armée, peut-être, les éléments de la police qui cherchent à remettre de l'ordre. Moi, je vais vous citer un cas que j'ai vu personnellement d'un petit, c'était à Matadi. On a vu une famille d'un cadre d'une entreprise publique qui est à mutation au Congo, qui travaille là-bas. Et les gens de Bundu du Congo sont venus dans son bureau pour lui dire, monsieur, vous n'êtes pas originaire du Bas-Congo, vous devez plier vos bagages pour partir chez vous. Ces enfants, en 2006, partaient à l'école sous escorte parce qu'on avait très compris ces années. Donc, le problème qu'on se confond à poser, moi je crois, nous devons remonter pour voir quel est le fondement de la réclamation de Bundu du Congo. Ça entre l'indépendance du Bas-Congo, il faut qu'on arrive à le dire. Tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est parce que l'État n'arrive pas à s'assumer. Il faut que le ministre de l'Intérieur prenne son courage. Il y a eu des événements à l'extérieur, il y a eu des condoms, on a tué des éléments de Bundu du Congo, on a tué des éléments de la police. Le gouvernement a parlé de, je crois, 80 morts, la Monique a parlé de 130 morts, mais comme chez nous, l'Assemblée nationale a envoyé une commission sur pourquoi aller faire l'état des lieux. Comme toujours, les commissions particulières n'auront jamais compte de ce qu'ils font comme rapport.
Je me souviens qu'il y a une commission qui était allée enquêter là-bas, mais le rapport a été lu à huis clos à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui on ne paye pas un peu le prix
de
responsabilité n'ont pas été établies?
Est-ce qu'on doit envoyer des rapports sur le terrain pour venir les lire à huis clos pour clôturer les dossiers? Maintenant, ça reprend. On va encore envoyer notre commission, on va encore faire un huis clos, et puis encore, on va encore tuer les pommes. Monsieur, moi, ça n'est pas un super congolais.
Mais
soit-il, dans tout le pays, les députés ont une procédure pour les déchoir et les juger. Si on est établi que Bundu du Congo est instrumentalisé par son leader spirituel pour poser des actes et attaquer les églises qui ne sont pas les leurs, à tuer, j'ai bien prêtre là qu'on a broyé les mains, il faut qu'on arrive à sanctionner. Ce n'est pas un pays, la justice là c'est quoi? Quand les chefs de l'État cherchent à sanctionner les magistrats, on crie qu'il faut les mains. Le procureur doit constater les faits et voir la flagrance et agir.
Kalala Chimankinda, il y a quand même des réclamations de la part de ce mouvement politico-religieux. Est-ce que vous connaissez quelles sont leurs revendications précisément?
Je vous dis que généralement, on dit que le Bas-Congo est habité, notamment il faut qu'il y ait l'autodétermination du Bas-Congo. Il parle de, disons, un terme, l'ambase, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une sorte d'un pays pour eux. Et ça, c'est le fondement de la réclamation d'un moment d'enseigner. Au-delà de ça, une autonomie politique. N'oubliez pas que quand Mwanda Sémi a fait sa campagne pour être gouverneur du Bas-Congo, le soubassement c'était celui-là.
Merci beaucoup, Kalala Chimankinda. Nous avons également en ligne depuis Goma au Nord-Kivu, Taylor Toeka. Vous êtes correspondant dans la ville de Goma du journal Le Phare. Votre réaction?
Oui, Claude, moi j'ai deux observations sur le point de BDK. Donc la première, il faut d'abord parler du point de départ. Parce que le BDK a quand même existé depuis très longtemps dans notre pays. Mais à partir de la gestion du code de comptation électoral, c'est là où les choses ont pris une autre ampleur. Vous allez voir que jusque-là, selon certaines analyses, la cause était encore juste. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'arrive plus à comprendre. C'est un peu avec tout ce que, avec les mémos de l'ECC, c'est un peu de l'intégrisme religieux. Puisque lorsque quelqu'un se permet à s'attaquer à l'église, aujourd'hui, le prêtre là, catholique a été victime. Avant lui, c'était le pasteur de l'église protestante, ainsi de suite. Vous voyez déjà qu'avec ça, il faut que le gouvernement puisse nous donner un peu de lumière. Il faut que la justice soit faite. Alors cette justice-là, comme Mike l'a dit, on doit d'abord commencer aussi par l'enquête, puisque l'enquête a été faite dans la région, par l'Assemblée provinciale, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas la suite. Donc, lorsqu'on ne connaît pas la suite, ces gens-là peuvent être frustrés. C'est moi, je comprends que tous ces comportements, c'est une sorte de frustration. À partant des élections, parce que selon les membres du BDK, les gouverneurs devraient nécessairement sortir de l'UN, mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on a un autre cas, on s'attaque aux non-originaires, on s'attaque aux églises, mais tout ça, c'est un peu flou. Donc, la responsabilité, selon moi, c'est au niveau du pouvoir public.
Est-ce qu'il faudrait arranger les réclamations politiques par la violence? N'y a-t-il pas d'autres moyens pour trouver des solutions?
Non, on ne peut pas favoriser la violence. Mais ce qu'ils font là, c'est de la frustration. Alors, il faut chercher comment arrêter cette frustration, puisque une fois on peut trouver ce qu'ils demandent réellement. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement a envoyé les policiers sur le terrain pour renforcer, maintenir l'ordre. Mais on va le faire comment? Est-ce qu'on va plus vivre ce qui s'était passé l'année passée? C'est un peu ça le problème. Qu'on ait d'abord le schéma à suivre. On va faire quoi? C'est comme ce qui s'était passé ici à Goma avec les CNDP. Qu'on sache ce que les BDK réclament. Sinon, on va toujours continuer dans la même situation.
Est-ce qu'il faut une nouvelle conférence pour le Bas-Congo, comme cela s'est fait pour le Nord et le Sud Kivu? Parce qu'on a l'impression que la violence aujourd'hui se déplace de l'Est vers l'Ouest du pays.
Ça dépend. Si on peut appeler ça une conférence, une table ronde, un dialogue, c'est ce que les Congolais ont toujours fait. Mais l'essentiel, selon moi, c'est d'abord c'est écouter ces gens-là. Peut-être contrairement au moins au CNDP, le CNDP n'a pas vraiment quelqu'un au niveau des institutions, mais le BDK a un député.
Merci.
Il faut l'écouter.
Merci beaucoup. Sonia, placez un mot avant que nous passions au deuxième thème de...
Moi, je pense que, Claude, le problème maintenant, c'est de régler l'affaire de l'impunité au Congo. Il faudrait qu'on arrête de laisser ce genre de personnes qui commettent des bévues impunies. Parce que tant qu'on ne punit pas, on continuera à avoir ce genre de situation à répétition. Est-ce qu'au Congo, quand on a besoin d'obtenir quelque chose, il faudrait qu'on tue, il faudrait qu'on prenne la Kalachnikov? Finalement, nous tous, nous allons prendre des armes.
Apparemment, c'est devenu une habitude.
C'est devenu une habitude, et puis cette habitude-là, elle a des conséquences que nous ressentons. Ça veut dire que si on commence au moins à punir les auteurs de ce genre de situation, les gens vont être un peu dissuadés. Il faudrait qu'on ait une justice dans ce pays. Je réclame cette justice.
Merci beaucoup. Juste un mot.
Justement, j'ai entendu chez Taylor parler de l'intégrisme religieux. Je voudrais, moi, jeter un éclaircissement là-dessus.
Rapidement.
Oui, rapidement. Le débat qu'il y a sur le BDK, à mon point de vue, ressemble au débat sur l'islam. L'islam n'est pas fondamentaliste. Il y a des gens qui instrumentalisent l'islam. Les discours officiels du BDK n'a jamais été au racisme, à l'exclusion. Nous devons nous mettre d'accord. La preuve d'ailleurs, il y a un membre important, le leader même du BDK, qui est dans les institutions. Ça voudrait dire qui accepte les institutions.
Mais tous ces exemples, des exactions contre les non-originaires, c'est de l'imagination.
Non, j'ai dit, ici Claude, il faut faire la part des choses entre les discours officiels du BDK et des agissements des membres du BDK. Il y a des dérapages. C'est ça tout le débat ici.
C'est là, veut-il dire que moi d'enseigne, il ne maîtrise pas son.
J'ai dit ceci. Essayons de voir, comparons ça au débat sur l'islam. Et aujourd'hui, dans certains milieux, dans certaines parties du monde, on veut présenter l'islam comme une religion
extrémiste. Merci.
Alors que c'est plutôt des individus qui instrumentalisent selon des courants d'islam.
Merci beaucoup, Mike.
Pas politique. Ok, d'accord.
On avait connu la situation du Kataï et du Katanga avec les Kataïens. Ça a commencé comme ça. On a dit que c'était des gens qui ne respectaient pas le mot d'ordre officiel de leur leader. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Merci, Sonia. Karl Alachimane, qui n'a juste un mot avant qu'on passe au second thème de cette tribune de la presse.
Oui, je voulais juste dire que quand Mike parle de l'intégrisme, je voulais rappeler que très souvent, les leaders agissent en coulisses. Souvenez-vous du cas de Pasteur Coutinho qui a été agressé par les militants. non, parce qu'on a dit qu'il aurait brûlé un document où on a fait écrire les sourates, donc les chapitres du Coran. Donc ici, ce que les gens de Bounou Dakongo font dans les Noirs n'est pas nécessairement ce qu'ils disent au grand jour. Donc les têtes qui dirigent le mouvement au grand jour ne peuvent pas vous dire que nous avons demandé à nos militants d'attaquer tel ou d'attaquer tel autre. Mais quand on pose des actes, les analystes analysent pour voir que tel, vu le niveau des gens qui sont dans les villages là, il y a des choses qui ne peuvent être que s'ils sont commandités par ceux qui comprennent certains dangers.
Merci beaucoup, Kalala Chimankinda. Le second thème de cette tribune de la presse est l'an 1 du gouvernement Gizenga. Voici déjà un an qu'a été investi ce gouvernement. Quel est son bilan? L'opposition congolaise la qualifie de globalement négative. Quant au ministre auprès, le premier ministre, Godefroy Mayobo, on ne peut pas accuser le gouvernement de ne rien faire. Il y a des situations qui s'imposent au gouvernement, indépendamment de sa volonté. Nous avons trouvé les caisses de l'État déficitaires, mais nous travaillons pour améliorer les choses, estime Godefroy Mayobo. Le ministre auprès, le premier ministre, répondait à Jean-Claude Toumba Kamanga jeudi dernier au cours de l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Suivons-le.
On ne doit pas venir accuser un gouvernement parce qu'il y a des fluctuations, des paramètres qui ne dépendent pas tous du gouvernement. Nous sommes un pays qui consomme une grande partie des biens qui viennent de l'extérieur. Ouais. Mais si à l'extérieur, les prix varient, ça va rien faire, ça va se répercuter même à l'intérieur.
Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au point d'achèvement? Est-ce que le gouvernement Gizenga va atteindre ce point d'achèvement et quand?
C'est les FMI et les autres qui vont dire. Nous nous efforçons de réaliser les conditions. On devait l'atteindre en 2006. On l'a raté en 2006. En 2007, tout a été bien exposé quand nous sommes entrés au gouvernement. Comment est-ce qu'on a trouvé les comptes de l'État déficitaires? Avec les déficits, il ne faut pas que ceux qui ont causé les déficits nous disent pourquoi vous n'atteignez pas le point d'achèvement. Ce n'est pas sérieux. Nous avons travaillé pour résorber les déficits
et stabiliser.
Maintenant, il y a eu un petit dérapage à la fin de l'année et nous sommes en train de le contrôler. Nous reprenons avec probablement les bonus à partir du mois de mars. Tout ce qui est jugement excessif que nous avons entendu, ça n'engage que les auteurs.
Taylor Toeka, vous êtes correspondant du journal Le Phare à Goma, au Nord Kivu. Vous intervenez justement depuis l'est du pays. Comment on juge, on fait le bilan du gouvernement Gizenga après sa première année?
Donc, à l'est, on se pose d'abord la question de savoir si le premier ministre existe. Pour retrouver, lorsqu'on parle de l'exécutif en RDC, on voit le chef de l'État, on voit aussi le chef du gouvernement. Mais ici, on a l'impression comme si on a un chef de l'État et un ministre d'État. Vous allez voir que lorsque le président de la République n'est pas présent, les gens s'attendaient à voir le premier ministre, mais c'est plutôt le ministre d'État. Avec ça, les gens se demandent est-ce que le Premier ministre existe réellement, surtout avec tout ce qui se passe à l'Est. Il y a eu des catastrophes, il y a eu des guerres. Les gens s'attendaient à un mot de la part du Premier ministre au nom de son gouvernement, mais il ne dit presque rien. Donc l'impression que les gens ont ici à l'Est, la présidence a vraiment écrasé, passez-moi le terme, écrasé la primature. Donc le Premier ministre n'existe pas.
Excusez-moi, Taylor Toeka, est-ce la présence physique du Premier ministre qui compte là-bas à l'est du pays ou c'est peut-être l'action qui conduit quand il y a par exemple des drames à l'est du pays, lorsqu'il y a des situations où le gouvernement devrait intervenir?
Non, on ne parle pas de sa présence physique, on parle au moins de sa déclaration. Lorsqu'il y a par exemple des catastrophes dans la région, ici à l'Est, lorsqu'il y a des guerres, le Premier ministre dit quoi? Qu'il donne juste la position du gouvernement. C'est-à-dire, parfois le président de la République parle, parfois le ministre, un ministre peut parler, mais le Premier ministre, on ne sait pas lui dit quoi. C'est un peu ça les inquiétudes de la population ici. On veut aussi écouter le Premier ministre parler. C'est un peu ça la situation d'ici. Bon. Si on peut parler alors de son bilan, le bilan vraiment sur le plan social, c'est négatif, comme vous le savez.
Est-ce qu'il ne faut pas lui donner un peu de temps? Ce n'est que la première année.
Bon, si on peut prendre les programmes du gouvernement, il y a eu des mesures, des réformes et des actions urgentes pour les 100 premiers jours, c'est-à-dire 3 premiers mois. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 12 mois. On ne peut même pas voir ce qui a été prévu pour les 3 mois.
Merci.
Les 3 premiers mois.
Merci beaucoup, Taylor Toeka. Kalala Chimankinda, vous êtes éditeur du journal La Tendance. Comment, dans votre journal, on fait le bilan du gouvernement Gizenga 1 et 2, disons?
Je dis que globalement, le bilan est négatif. Là, je ne peux pas se voiler la face. Je suis seulement peiné de constater qu'un ministre près du premier ministre puisse tenir le discours qu'il a tenu. Là, c'est vraiment, excusez-moi les termes, un discours de la rue. Quelqu'un qui, à ce niveau, ne peut pas prendre de tels arguments disant on a trouvé la caisse vide. Ça fait une année que la caisse était vide. Dans une année, on peut la renflouer, non? Si on ne peut pas nous renflouer la caisse, déposons les armes, il faut toutes d'autres personnes. Les grands problèmes, à mon avis, ce ne sont pas des ministres qui sont incompétents. Je crois que, comme on a toujours dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Dans les cas d'espèce, le premier ministre ne parvient pas à donner l'impulsion nécessaire pour que ça puisse démarrer. C'est lui le blocage. Et si son ministre d'État estime que les caisses étaient vides et qu'ils sont vides, tu vois que lui et son chef doivent prendre l'établir et laisser la place aux autres compatriotes qui peuvent venir à relater la situation, parce que ce pays, comme tout le monde le dit, avec un peu plus de volonté, on peut relancer la situation, avec une gestion un peu plus moderne, en mettant plus l'accent sur le combat contre la corruption et le combat contre l'impunité. Les gens s'amusent avec l'argent de la République tous les jours. Mon cher, donc je vous dis, regardez seulement, les premiers ministres passés à la télé, on nous dit qu'il touche 6 000 dollars. Est-ce qu'on vous a déjà dit combien touche le président de l'Assemblée nationale? On vous a dit combien touche le président du Sénat? On vous a dit combien est-ce qu'on a besoin de l'argent dans ce pays pour qu'on paye des véhicules aux députés? Est-ce que voilà autant de questions qu'on peut se poser quand on nous dit que les caisses étaient vides, mais tout l'argent qu'on s'est mis avec, ça tient tout. Il y a la situation qui brûle la laisse. On a toujours de l'argent pour faire la guerre. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser et étudier de voies et moyens pour commettre cette guerre afin de prendre ce fonds-là et le mettre à la disposition du pays? L'histoire du Fonds monétaire international avec le premier point d'achèvement, ça devient une blague pour nous. Chaque fois on vous dit serrer la ceinture, on serre la ceinture, on avance, dès qu'on peut avancer, on vous dit il y a eu des rapages, il faut reprendre à nouveau. Moi je crois que comme beaucoup de gens le disent, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'ont jamais permis à un pays de se développer.
Merci.
C'est bizarre, mais il faut qu'on le dise.
Merci beaucoup Kale Achimankina. Mike Mukeba, est-ce que vous partagez le même point de vue? Le bilan, il est comment vous le jugez dans votre journal Le Soft?
Oui, j'aimerais d'abord dire ceci, que il n'est pas correct de dissocier la responsabilité d'Antoine Gizenga à celle de Joseph Kabila. Ils sont embarqués sur la même barque. Et quand tu lis les événements, le rapport entre les différentes institutions actuellement, tu te rends compte qu'en fait c'est Joseph Kabila qui est le patron. C'est lui le chef de la majorité. Il a un premier ministre qui ne contrôle pas la majorité. La majorité MP n'appartient pas à Gizenga.
Il n'est pas écrasé par
la majorité MP est une majorité qui appartient au président Kabila. Gizenga est venu se greffer parce qu'à l'époque, on avait besoin de son mot d'ordre pour s'assurer de la victoire au deuxième tour. Donc on ne peut pas dire que non, le bilan est globalement négatif, que Gizenga existe ou n'existe pas, sans associer, sans impliquer Kabila dans cette responsabilité. Aujourd'hui, nous avons un exécutif, si je peux le dire un peu, bicéphale, avec un chef d'État qui, sur le plan politique, est le vrai patron de cet exécutif, parce que c'est lui qui décide. C'est là que je dis, il y a eu un problème au départ, il y a eu un problème sur les promesses qui ont été faites. Moi, j'ai toujours pensé, je l'avais dit une fois ici, qu'il est impossible que dans 5 années de gouvernance, qu'on puisse changer grand-chose compte tenu de la situation du pays. Moi, j'avais pensé que dès le départ, il fallait rien promettre, il fallait pas promettre à la santé.
Et naviguer à vue, il fallait naviguer à vue.
J'avance, non pas naviguer à vue. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il faut appeler les Congolais à travailler. Vous savez, nous sommes dans une situation macroéconomique qui fait qu'il faut d'abord rétablir les équilibres. Il est temps de rétablir les équilibres sur cette base-là qu'on va commencer à construire. Nous avons un pays qui n'a quasiment pas d'infrastructure. Qu'est-ce que vous voulez que vous fassiez en une année?
Que les 5 chantiers ne vont pas répondre aussi à...
Non, j'ai dit les 5 chantiers. C'est la question, c'est ça, les 5 chantiers. Les 5 chantiers, si, mais on ne nous a jamais dit d'où viendrait le moyen. C'est ça la grande question. Il faut dire aux Congolais qu'ils doivent se mettre au travail. Mais tout le grand problème, c'est là que moi j'implique la responsabilité au chef de l'État. Nous sommes sortis d'un système. Les chefs d'État disaient que l'un plus quatre ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faut commencer par ces vignes. Nous ne pourrons pas nous penser avancer tant qu'il y a des fuites dans la mobilisation des recettes de l'État tous les jours.
Beaucoup,
et je crois que là, l'exemple doit venir du chef de l'État, sanctionner les gens, les envoyer devant la justice. Nous aurons gagné un peu plus d'argent.
Vous avez déclaré que les portes de la prison seraient ouvertes.
Merci beaucoup, Michael. Je voudrais dire une chose, pardon. Les portes sont ouvertes, moi, ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de sanctionner ceux qui commettent des fautes, ceux qui détournent l'argent. Il y a une hémorragie
on vous a compris, Michael Moukébalsonia Mougalou. Est-ce que vous pouvez. Comment, Digital Congo, vous faites le bilan du gouvernement Gizenga?
Non, je n'aimerais pas parler au nom de Digital Congo, mais au nom. Le bilan du Premier ministre Antoine Gizenga? Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Taylor au début. Le Premier ministre, moi je pense qu'il a eu le temps de voir de quoi il est capable. Il a eu le temps de s'auto-évaluer, de voir qu'est-ce qu'il peut donner à la République. Et moi je pense, en tout cas j'aimerais soutenir une opinion, excusez-moi, on peut la qualifier de la rue. Je pense que le Premier ministre est fatigué. Il faut qu'il se repose. Le Premier ministre n'est pas seul dans sa famille politique. C'est-à-dire qu'il peut se retirer et laisser passer la main à quelqu'un d'autre de sa famille politique. Pour
Parce que c'est un problème de personne ou...
Il y a en même temps un problème de personne et en même temps un problème de vision du gouvernement. Le chef de l'État l'a dit lorsqu'il faisait l'état de la nation le 6 décembre devant le Congrès. La vision du gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement ne peut pas se limiter à emprunter la vision du chef de l'État. C'est un organe, c'est une institution à part. Le gouvernement doit avoir sa propre vision, doit avoir son organigramme.
Mais ils font partie de la même majorité.
Non, mais faire partie de la même majorité. La majorité, c'est ça l'institution que nous avons. Est-ce que nous avons une institution ici au Congo qui s'appelle majorité? Non, dites-moi Claude. Nous n'avons pas d'institution qui s'appelle majorité. C'est ça, c'est une famille politique. C'est une composante politique. Mais on a une institution qui s'appelle l'exécutif, qui s'appelle le gouvernement de la République. Le gouvernement doit travailler par rapport à son chronogramme. Malheureusement, par rapport au chronogramme du gouvernement, bon, je ne sais pas si on peut parler d'un chronogramme du gouvernement, parce qu'il a emprunté l'étage chantier du président de la République, il a dit que c'était ça le 5 chantier du gouvernement. Si on doit évaluer le gouvernement par rapport au 5 chantier, Claude, circulons à Kinshasa. Voyons combien de temps on mettra pour quitter la ville et arriver à l'UPN. Voyez un peu combien de temps vous mettrez.
Mais ça n'a pas encore.
Pourquoi?
Ils ont dit. Le gouvernement a annoncé les débuts de travaux.
On a annoncé les débuts de travaux au mois de mars. C'est bien bon, mais déjà les quelques travaux qui sont faits. Quel est l'état des travaux que nous avons ici? On fait la réhabilitation des routes par certaines sociétés qui ont été sélectionnées. C'est quoi les routes qu'on nous donne? Nous roulons, nous circulons. Qu'est-ce que nous avons comme route? C'est des routes qu'on arrange aujourd'hui pour qu'elles soient habillées dans 2 mois? Voyez le tronçon du palais de marbre jusque vers la Loue à Delphos. Je prendrais même jusque vers comment on appelle Météo. Non, Météo seulement. On a fermé à un moment ce tronçon parce qu'on réhabilitait. Moi, je roule sur cette route là tous les jours. C'est mon calvaire. Je dois faire des zigzags parce que je ne sais pas rouler normalement. Encore que je risque de faire des accidents parce qu'on n'a pas de route. Il y a des trous partout. Que le gouvernement soit un peu plus strict. Le chef de l'État dit que les portes de la prison seront ouvertes. En tout cas, qu'on jette quand même en prison ceux qui le font, ceux qui volent. Mike a parlé ici des détournements. Tout l'argent qu'on donne là, ça va où? On sort de l'argent pour qu'on réhabilite les routes, pour qu'on construise, pour qu'on fasse ceci et cela. Ça va où? Parce qu'on ne voit pas concrètement.
Mais Sonia, quand vous dites que le Premier ministre est fatigué, est-ce que ce n'est pas le juger trop tôt? Ouais.
Non, comment on dira le juger trop tôt?
Il
n'y
a qu'une année qu'il est.
C'est un secret de polichinelle, cher ami. On sait que le Premier ministre, il a la bonne volonté peut-être de servir le pays, il peut servir autrement. Pour un leader, je pense qu'il est. C'est pas qu'il soit incapable, mais je pense qu'il a. Il a plus, je sais pas, il est plus fort pour ça. Qu'il libère ce poste, qu'il donne à une autre personne de sa famille politique, et que lui peut servir de conseiller, d'expert, je ne sais pas de quoi. Il va toujours servir la nation. C'est peut-être ça son souci, mais il peut servir autrement ce pays.
Merci. Mike, s'il vous plaît.
Moi, je crois, je partage avec Sonia que le Premier ministre est fatigué, mais je dis, si nous n'avions pas eu, ce Premier ministre aurait été pire. Je crois que, tenant compte de son combat, de son charisme, il représente une caution morale. Et je peux, moi, à ce niveau, prendre le risque de dire que quand il partira,
ça sera pire.
Merci beaucoup,
Malcolm. Il faut que son moral, bien entendu, on n'en doute pas. Mais il a déjà travaillé pendant un temps. On ne refuse pas qu'il soit là. Il peut être là, héros dans l'ombre, en train de travailler toujours aux côtés des gens de sa famille.
Quand il partira,
c'est donc quelqu'un de plus dynamique. On a besoin de jeunesse. On l'a vu avec Castro aujourd'hui. Il a finalement libéré. Ça n'est pas la fin du monde.
Merci.
Ça ne tue personne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre troisième et dernier thème, c'est la tenue à Kinshasa du 25 au 26 février 2008 de la table ronde sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Table ronde ayant réuni les ministères de la Défense, de l'Intérieur ainsi que celui de la Justice avec les partenaires de la RDC tels que l'Union Européenne à travers notamment le SEC et le POL. Quelles sont les résolutions sorties de cette table ronde? Notre confrère Jeff Ngoy a couvert cette table ronde et nous en fait le point.
La feuille de route qui accompagne le plan directeur général est un document qui définit les besoins prioritaires pour chaque secteur à travers un état des lieux. Sur le plan militaire, la table ronde adopte la coordination congolaise des appuis d'origine diverse pour un programme consistant à rendre l'armée dissuasive. Elle adopte aussi les programmes en cours, notamment le recyclage des bataillons par la MONUC, la formation et l'équipement des unités polyvalentes du génie, le contrôle des effectifs à travers un recensement biométrique. Au niveau de la police, toutes les réformes doivent se réaliser dans le cadre du comité de suivi de réforme de la police congolaise, un document présentant des projets d'action immédiates et réalisables à impact direct sur le vécu de la population dans 6 mois a été adopté. 3 engagements ont été pris par les partenaires de la RDC pour concrétiser cette réforme. Il s'agit de l'appui à la mise en œuvre d'un outil de gestion des ressources humaines, de la police de proximité et de la mise en place des dispositifs de contrôle. Dans le secteur de la justice, la table ronde adopte la capitalisation des projets de cartographie des institutions judiciaires et des services pénitentiaires, l'allocation des ressources budgétaires conséquentes à la justice.
J'ai sous mes yeux le potentiel du mercredi 27 février et on y lit clôture des travaux de la table ronde sur la sécurité. L'Union européenne s'engage à appuyer le processus de réforme du secteur sécuritaire en RDC. Et j'ai aussi l'Observateur du jeudi 28 février 2008. On y lit réforme du secteur de la sécurité, la force de réaction rapide, une urgence. Qu'est-ce que vous dites, Kalala Chimankinda, de cette force de réaction rapide à établir d'ici 2010? Est-ce une priorité?
Je crois que ce sont des mesures pour amuser la galerie. Et je crois que le problème pour le moment ne se trouve pas à ce niveau-là. Tout ce qu'on devait faire est connu. Malheureusement, j'ai l'impression que nos décideurs laissent la voie normale et vont ouvrir des portes qui vont nous conduire encore vers des situations un peu plus complexes. Est-ce qu'on n'a pas de force dans ce pays pour en créer d'autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais je crois que le ministre de la Défense, qui nous avait d'ailleurs fourni tout les... Il y a le premier moment que l'appel compte aller se terminer. À l'époque, vous vous souvenez dans quel terme il parlait de cet individu-là.
En fait, c'est cette, d'après le ministre, c'est cette force de réaction rapide constituée de 12 bataillons, c'est-à-dire près de 12 000 soldats, qui devraient en principe remplacer les troupes de la MONUC d'ici 2010. Vous pensez que c'est possible de remplacer ces troupes de la MONUC d'ici 2010?
Les circonstances ne le permettent pas encore. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte pour qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place une force qui pourra remplacer la MONUC avec les moyens que la MONUC dispose aujourd'hui. Donc il se pose un problème fondamental d'une lecture précise de la situation. Je crois que si on veut aller vite dans des zones, nous allons nous retrouver encore dans une situation plus complexe parce que les brigades, là, on va les composer comment? Ils vont provenir de quelle force? Au moment où nous parlons encore chez nous de brassage, de mixage, il y a plein de choses qu'il faut régler avant d'envisager cette étape-là. Sinon, 2010, dans deux ans, il y a plein de choses qu'on a promis de faire depuis 2003. Quand nous sommes venus de l'Afrique du Sud, de Saint-Sipi, on avait comme priorité d'abord de mettre en place une armée républicaine. On l'a pas fait. Vous pensez qu'à moins de 2 ans, on mettra en place une 12 brigade pour arriver à remplacer véritablement la MONUC avec tout ce qu'il y a comme implication politique à travers le pays? Je crois que c'est la blague.
Merci beaucoup, Taylor Toeka. Vous intervenez justement du Goma, au Nord Kivu, où il y a des problèmes, il y a encore des problèmes de sécurité. Vous êtes correspondant du Faragoma. Qu'est-ce que vous dites de cette force de réaction rapide? Est-ce une priorité pour intervenir, notamment à l'est du pays, au Nord Kivu particulièrement?
Non, moi, je ne vois même pas l'importance de ça. C'est avec la MONUC, les FARDC n'arrivent pas à sécuriser la population de l'Est. Et après les départs de la MONUC, est-ce que les 12 bataillons là qui ne représentent que 3 ou 4 brigades,
qu'est-ce qu'ils vont faire, ces éléments-là? Parce que si on prend seulement les Nord-Kivu, il y a plus de 5 brigades brassées. Donc 5 brigades brassées avec les autres qui ne sont pas brassées, mixées. Donc 10 brigades qui ne font, je te dis, absolument rien. Avec les 3-4 brigades, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, après le départ de la Monique? Donc moi, jusque-là, je ne vois pas vraiment que ça sera quelque chose d'important. Mais un autre point sur la sécurité, si on peut parler de tout ce qui a été fait là à la table ronde, rien, aucune proposition concrète a été faite sur la mer et la DGM. Là aussi, on se pose la question. Pourquoi on a parlé de la justice, on a parlé de la police et de l'armée, on n'a pas parlé de l'ANER et de la DGM? Pourquoi ces statuts-là particuliers?
Merci.
Donc,
merci beaucoup, Taylor. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Mike Moukeba, cette table ronde sur la réforme du secteur de la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire pour reformer justement les services de sécurité, police nationale, armée, justice aussi, puisqu'il s'agit aussi de réformer la justice, et pourquoi pas les services de sécurité comme l'ANER et les autres?
Mais il n'y a rien à faire parce que nous sommes très mal partis. Ce processus d'intégration de l'armée a été mal négocié au départ. Comment voulez-vous intégrer dans l'armée des éléments Maï-Maï? Les Maï-Maï n'ont pas appris l'art militaire. C'est des résistants à qui on a appris à tirer.
Et où est-ce qu'il faut les mettre? Il faut
les démobiliser ou à la limite les envoyer dans des centres d'instruction? Mais c'est cela la réalité. Ils doivent apprendre l'art militaire. Il faut passer par un centre d'instruction. Il ne faut pas les envoyer dans des centres de brassage. Et là, il y a un problème. Et ce qui est grave, c'est que ça s'est fait jusqu'au au niveau de l'échelon le plus élevé de l'armée. Donc, nous avons une armée, si je peux le dire ici, qui comporte certains éléments qui ne maîtrisent pas l'art militaire. Et ils ne sont pas en petit nombre, ils sont en très grand nombre dans cette armée. Il y a eu le problème de la spécialisation des unités de l'armée. On n'a pas pensé à ces problèmes. On a pris des gens qui étaient dans le régiment blindé pour les envoyer par là-bas. Et aujourd'hui, quand on est en face d'un ennemi, on ne sait pas à quel moment on peut utiliser telle unité spécialisée pour telle action. Toutes ces questions-là n'ont pas été prises en compte au départ. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une armée moderne qui puisse faire face à un danger extérieur. Il nous faut revenir à la case de départ, déterminer les crises d'intégration des éléments dans l'armée et faire en sorte que tous ces éléments qui vont être intégrés se reconnaissent en un seul commandement.
Merci beaucoup Sonia Lukusamugalo, vous êtes journaliste au sein de Digital Congo Télévision. Le président de la commission défense et sécurisation des frontières au Sénat, le colonel honoraire Raymond Omba, a affirmé au cours d'une émission Dialogue entre Congolais qu'il fallait d'abord commencer par les états généraux de l'armée pour établir les mots et ensuite chercher comment les guérir. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Je m'étonne quand même que les mots tout ce temps n'avaient jamais été établis. Qu'est-ce qu'on attendait tout ce temps pour établir les mots? Bon, soit. C'est fait, on a fait les états généraux de la sécurité. On a établi les mots, je suppose. Et maintenant, ça fait partie des solutions, cette force d'intervention rapide qui va remplacer la MONU
en
2010, j'espère seulement qu'on donnera à cette force d'intervention rapide les moyens nécessaires pour être réellement dissuasive. Parce que on a des jeunes gens, comme dit souvent le président de la République, nous avons des jeunes gens qui luttent pour l'intérêt de la patrie, de la nation, mais comment on les entretient? C'est là qu'on va les envoyer, là. J'espère qu'on va bien les entretenir. On va leur donner le courage. Entretenir, en fait, ce n'est pas seulement l'argent, hein. Même moralement. Il faudrait qu'ils soient en état de lutter pour l'intérêt de la nation. Il faudrait qu'on les mette en état. C'est-à-dire, même si on ne peut pas leur donner de gros moyens, qu'on leur mette dans des conditions correctes pour bien travailler.
Est-ce qu'il ne faudrait pas dégraisser pour mieux équiper, mieux payer
les militaires? Mais déjà, on ne parle que de combien? 12 brigades, vous dites? Oui. On a déjà dégraissé.
12 bataillons.
C'est pas déjà dégraissé, c'est pas suffisamment dégraissé. Parce que quand j'ai entendu Taylor, il parlait de 3 bataillons. 12 brigades qui représentaient 3 bataillons. Je ne suis pas forte en... 12 bataillons qui représentent 3 brigades. Oui. C'est suffisamment dégraissé. Je suppose. Donc ça ne va même pas suffire pour le Nord Kivu, comme a dit Taylor. C'est-à-dire qu'on va prendre cette force d'intervention rapide et la poser dans un seul coin du pays, ou ce sera pour la sécurisation de tout le pays. Parce que déjà, si on s'occupe seulement du nord, l'ouest s'est réveillé. On l'a vu le Bakongo.
Merci beaucoup, Sonia. Excusez-moi, peut-être en 10 secondes, Mike.
Comme on dit, les problèmes sociaux sont globaux, les problèmes politiques sont globaux, tout se tient. Nous ne pouvons pas parler de la réintégration, de la mondialisation de notre armée, sans que sur le plan diplomatique, on arrive à faire lever l'embargo qui a imposé contre le pays.
Cet embargo, c'est sur le gouvernement congolais ou bien sur les milices?
Non, l'embargo nous concerne, nous ne pouvons pas nous approvisionner officiellement.
Merci beaucoup.
C'est très important.
Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes obligés de conclure cette émission. Merci donc à notre consoeur et à nos trois confrères d'avoir participé à cette émission. Nadine Foul a été à la réalisation et Mimi Kindou à la mise en onde. Au revoir et bon week-end à tous.